Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Le son est assez fort? Super. Je suis content d'être avec vous ce matin. Donc il a été dit tout à l'heure, moi je reviens de moins loin que Charlot qui vient du Québec. Je reviens de Toulouse, j'ai fait la route pour retrouver tous mes copains et pour aller faire des concerts avec ce groupe donc, qui s'appelle Yatal. Et on était à Valence et puis à Die. Et on vous donnera plus de nouvelles tout à l'heure. Je peux déjà vous donner une nouvelle, on est fatigué. On a un peu le cœur qui bat autour des yeux. Sensation un peu étrange, mais ce matin ça va bien se passer et j'espère que le Seigneur va nous réveiller avec l'étude de sa parole. Cet instrument, je ne sais pas, je ne suis pas très objectif, moi je trouve qu'il est joli et qu'il sonne bien, je ne sais pas si vous partagez cet avis. Et quand on le voit comme ça, tout accordé, donc dans une gamme, toutes les notes vont ensemble, c'est tout beau, tout bien, on oublie que derrière il y a eu 25 années de recherche par le fabricant qui a martelé pendant des années différents alliages afin de trouver comment ça résonne et de faire cet instrument. Et quand on voit cet instrument être réaccordé, ce ne sont que des coups de marteau qui font des sons. C'est horrible. On se dit, mon pauvre instrument, qu'est-ce qui lui arrive? Mais lui, le créateur de cet instrument, il sait très bien le but, c'est d'accorder l'instrument et que l'instrument sonne et soit joli. Et on discute un peu beaucoup du hang dans les concerts, on explique aux gens, ils nous posent beaucoup de questions. Et nous, ça nous fait toujours penser à une sorte d'image qu'il y a dans la Bible et qu'on va voir ensemble ce matin. C'est l'image d'un potier et de l'argile. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir vos Bibles, pour ceux qui les ont, dans Jérémie. Alors Jérémie, vous ouvrez à peu près votre Bible au milieu, vous décalez d'un centimètre si votre Bible est épaisse de 5 centimètres et vous ouvrez au milieu, vous vous décalez sur la droite, vous devrez tomber dans les prophètes et vous verrez après Isaïe, il y a Jérémie. Ceux qui ont une Bible blanche écrite en rouge, c'est à la page 498. Ça c'est plus pratique. Voilà, et je vais lire avec vous. Donc Jérémie chapitre 18 versets 1 à 12, qu'on va lire ensemble. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» dit l'Éternel. « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. » Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. La Bible, vous l'entendez souvent, elle a été destinée premièrement aux lecteurs de ce texte. Les premières personnes à cette époque, on est à peu près en moins 600 avant Jésus-Christ, il y a des personnes qui ont lu ce texte. Et j'aimerais qu'on voit ensemble ce que Dieu voulait dire à ces personnes, à cette époque, et en quoi c'est valable pour nous aujourd'hui, parce que nous croyons que Dieu parle à travers la Bible. Et j'aimerais donc vous expliquer le contexte un tout petit peu brièvement. Comme ça, vous allez comprendre ce qu'eux, ils comprenaient. Et ensuite, on va faire le chemin inverse pour nous comprendre ce que Dieu veut nous dire. On est aux alentours de moins 600. Jérémie, c'est un prophète. Un prophète, c'est un porte-parole, quelqu'un qui Dieu s'adresse pour son peuple. Dieu parle à un homme pour son peuple. Le peuple d'Israël, et c'est ce peuple, vous savez, qui avait été sorti, peut-être vous connaissez cette histoire, qui avait été délivré d'Égypte. Vous savez, il y a un film bientôt qui va sortir là, avec la mer qui s'ouvre, ça vous dit peut-être quelque chose, Moïse. Voilà, ce peuple a été sorti d'Égypte pour aller dans une terre qui avait été promise par Dieu. C'est un peuple qui a toujours eu un problème majeur. C'est un problème d'idolâtrie. Et en fait, l'idolâtrie, c'est simplement le fait de vouloir mettre autre chose que Dieu à la place qui revient à Dieu. Donc c'est simplement le fait de vouloir adorer autre chose que Dieu. C'était le premier commandement que Dieu avait donné à son peuple, c'était tu m'aimeras moi de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et le peuple, lui, il voulait adorer autre chose. Il avait le cœur, et c'est l'organe principal d'où était basée cette idolâtrie. Son cœur ne voulait pas se tourner vers Dieu, son cœur ne voulait pas suivre Dieu. Et donc, Dieu annonce qu'il va juger ce peuple. Vous ne voulez pas marcher selon mes voies, selon mes lois, je vous les ai données, je les ai données à Moïse, il vous les a transmises. Vous voulez adorer d'autres dieux et tout ça ? Je vais vous juger, vous êtes un peuple rebelle. Vous ne voulez pas reconnaître que je suis Dieu et marcher comme moi, je le décide. Moi qui sais ce qui est bon pour vous. Donc un peuple qui veut vivre indépendamment de Dieu. Dans les chapitres précédents, si vous lisez, à partir du chapitre 16, on entrevoit que Dieu, il annonce un châtiment pour ce peuple, et c'est très simple le châtiment, je vous le résume. Dieu leur dit, je vais détruire la ville, et vous, je vais vous prendre et je vais vous déporter. Je vais vous sortir de cette terre. Vous allez partir, vous serez en captivité dans un autre peuple. Alors, si on regarde un peu plus de plus près ce passage, donc c'est une scène qui a l'air un peu banale, hein. Un potier qui fait un vase, le vase qui ne réussit pas, et le potier, qu'est-ce qu'il fait ? Il recommence tout. Mais de cette scène banale, on voit que Dieu s'en sert, et c'est le verset 6, je crois que je l'ai juste... il est là, je croyais que je l'avais souligné. Donc ce verset 6, Dieu il s'en sert comme une sorte d'image, une sorte de métaphore pour enseigner donc des vérités à Jérémie. Et nous, ensemble, je vous propose ce matin de voir en quoi ces vérités sont applicables aussi pour nous. On croit que Dieu parle à travers la Bible, que Dieu se révèle. Il révèle qui il est, il révèle qui est son peuple et il révèle quel est son plan pour son peuple. Vous savez, si je vais dehors dans la rue et je prends quelqu'un et je le mets derrière une grande couette, je prends une grande couette, je prends quelqu'un dans la rue au pif, je le mets derrière une couette et je vous dis, alors il y a qui derrière la couette ? Je sais pas, tu as dû aller voir, t'es aide-soignant, peut-être t'as rencontré une mamie, tu l'as mis derrière la couette. Non, t'as dû discuter avec un jeune, c'est un jeune. Il y aurait autant de réponses que de personnes ici sur qui est derrière cette couette. Et nous, ça me fait penser à Dieu. Nous croyons que Dieu, lui, s'est révélé. Les gens ont tous une idée sur Dieu. Dieu, il doit être comme ci, Dieu, il doit être comme ça. Mais non, Dieu, c'est ci, c'est cela. Et bien, nous croyons que comme cette personne, c'est comme si cette personne derrière la couette faisait tomber la couette et disait, voilà qui je suis. Et nous, on croit que la Bible, c'est ça. Hein ? Dieu qui se révèle et qui dit, voilà qui je suis. Donc, je vous propose de voir ensemble trois vérités, trois enseignements que Dieu voulait donner à Jérémie, son prophète, donc, et voir en quoi ces vérités, elles nous concernent. Donc, qui est Dieu ? Ce matin, nous allons voir qui est Dieu, et je trouve ça exceptionnel, qu'on ait un Dieu qui se soit révélé, qui ait dévoilé qui il était et comment il fonctionnait. Voilà. Donc, est-ce que vous savez comment s'appelle que le premier homme de l'humanité ne s'appelait pas Blaise, il s'appelait Glaise. Adam, ça veut dire tirer de la terre. C'est Glaise, il s'appelle Glaise. Adama, ça veut dire vraiment tirer de la terre. Et dans le sens premier qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est humanité. Adam est le représentant de l'humanité, donc c'est juste marrant d'avoir ça en tête, que, et très significatif, que le premier homme de l'humanité s'appelle Terre. Est-ce que vous êtes capable, je l'ai là, j'ai retrouvé le verset. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Et voilà, Adam s'appelle Terre. Est-ce que vous êtes capable ce matin d'avouer que ce Hang, il ait pu être créé tout seul, Tarin, le Hang, comme si une sorte de peut-être d'ouragan, une tornade était passée dans une décharge de métaux, puis les métaux se seraient entrechoqués, frotté pendant, certes, comme certains disent, des millions d'années, et ensuite, talin, accordé des notes qui vont ensemble. Il y a des lois là-dedans, de la physique, il y a des mathématiques. Vous pouvez essayer de marteler une casserole dans votre cuisine, vous n'y arriverez pas. Ce sont des ingénieurs qui ont travaillé des années et des années. Et on voit les marques, les traces de doigts, les traces de la création. C'est exactement pareil avec ça. Bon, on a un petit problème de couleur sur l'affichage, mais cet oiseau, je peux vous l'envoyer par mail, a de très très belles couleurs. Là, il est le pauvre. On dirait qu'il a été recouvert de pétrole. Donc, normalement, il a de très 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 belles couleurs. Mais sachez qu'il y a des personnes qui regardent ces images. Il y a des gens qui voient ça. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai tapé les plus beaux animaux, puis il y a eu ça. Des images de la NASA. Il y a des gens, je vous le dis, hein, peut-être vous les rencontrez, il y a des gens qui voient ça, des choses comme ça, c'est des images de la NASA. Il y a un site, j'ai découvert. Il y a des gens qui voient ça, petite dernière pour le fun, il y a des gens qui voient ça et qui se disent « c'est arrivé comme ça ». Mais non, ça n'a pas été créé, c'est comme ça. Vous savez, il n'y a pas de peinture sans peintre. Il n'y a pas de hang sans hang maker. Il n'y a pas de vase sans potier. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de créature sans un créateur. Et c'est ce qu'on apprend ici sur Dieu. Dieu est créateur souverain, on l'a chanté, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu est le créateur. Alors qu'est-ce que ça implique ? Il est en train un peu Dieu de planter le décor là pour Jérémie. Qu'est-ce que ça implique pour Jérémie ? Alors, je vous propose la version la plus dynamique que vous n'avez jamais vue de ce texte. Vous êtes prêts ? Jérém, viens voir. Regarde là, dans l'atelier. Regarde l'argile, il est où ? Il est dans les mains du potier. Et qu'est-ce qui se passe là ? Tu vois le vase, qu'est-ce qui se passe ? Eh oui, il a un défaut. L'argile ne doit pas être malléable, ou il y a peut-être une petite formation de calcaire, là, un petit caillou ou quelque chose. On ne sait pas ce qui se passe, mais ça rate. Tu ne vois pas, il part tordu. Ça lui convient au potier, tu crois, Jérém ? Non, hein ? Qu'est-ce qu'il fait, le potier ? Eh oui, Jérémie, bien vu. Le potier en refait un autre, tu vois, il enlève tout et il recommence. Il fait quoi ? Comme bon lui semble. Ah oui. Mais pourquoi ? Il a le droit de prononcer si ça lui va ou pas. Il a le droit de dire. Eh oui, pourquoi ? Ah ouais, bien vu, Jérém. C'est le potier et l'argile, il en fait ce qu'il veut. Eh bien, tu vois, je t'avais parlé d'un jugement que j'allais faire pour le peuple. Vous êtes l'argile, je suis le potier. J'ai le droit de faire la même chose. Ce que j'avais annoncé, j'ai le droit de le faire. Vous êtes l'argile, je suis le potier. Et nous, ce matin, en quoi ça nous concerne ? Mettez peut-être un « si » dans votre tête si vous ne croyez pas en Dieu. Si Dieu existe, alors il est créateur, nous sommes créatures, et Dieu fait ce qu'il veut. On n'aime pas ça, hein, entendre ça. Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est une deuxième réalité. Donc on voit un Dieu créateur, un Dieu souverain, et il y a une deuxième réalité qui en découle direct, c'est que donc Dieu est juge. Dieu est un juste juge. Si on est ses créatures et qu'il est le créateur, Dieu fait ce qu'il veut. Voilà la deuxième vérité que Dieu veut enseigner à Jérémie. Quel est le potier dont le seul but, ça serait de casser des vases ? Il les prend, il les casse, il les brise. Est-ce qu'en tant qu'argile, on aimerait aller dans son atelier ? Pas du tout. Dieu ne punit pas pour le plaisir. Dieu n'est pas en train de jubiler, là, penché sur le rebord du monde, à regarder et à faire des expériences sur les êtres humains. Non. Dieu, il est juste et il fait justice. Regardez, donc Dieu ne prend pas plaisir à juger ce peuple. Regardez le verset 9 et 10. « Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Il faut comprendre le verbe « repentir », Dieu ne pèche pas. La Bible nous dit que Dieu ne pèche pas, Dieu est parfait et Dieu est saint. Repentir dans le fait « je peux revenir sur ce que j'avais annoncé ». Et oui, Dieu est un Dieu qui vient à nos côtés, qui vient à côté de nous, et il est capable, on ne sait pas comment, de prendre en compte nos prières, de prendre en compte comment on vit. Dieu ne se dit pas « ah tiens, en fait, vous faites ça, bon, ben, je vais changer d'avis. » Genre, ah oui, c'est à cause de vous que je change d'avis. Non, c'est incompréhensible. Dieu vient à notre niveau, discute avec nous. On ne négocie pas avec Dieu. Mais Dieu entend les choses, il voit et il est juste. Et il peut revenir sur ce qu'il avait annoncé. Il annonce un jugement, mais il dit, je suis juste, j'annonce un jugement si vous le méritez. Et si jamais vous faites des bêtises, je vous juge. Imaginez, je vous dis ce matin, Dieu... Il vous veut, il a un projet pour vos vies, il veut conduire votre vie parce qu'il sait parfaitement, puisqu'il est le créateur, en fait, le fabricant du hang, il connaît l'instrument par cœur, hein. Il vous montre tous les plans, il vous explique tout, il connaît le mode d'emploi parce qu'il est le créateur. Et moi, si je vous dis qu'il y a votre créateur, Dieu, le Dieu de la Bible, qui veut que vous mettiez votre vie dans ses mains et que vous obéissiez, que vous reconnaissiez qu'il est Dieu, que vous réalisiez que vous êtes de l'argile et qu'il est le potier, vous répondrez quoi ? Moi, avant, je répondais... Ha, 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 lol. Le suivre, lui obéir, mais n'y pense même pas. Moi, je fais ce que je veux. On a une vie, une mort, entre les deux. Je fais ma life, je la kiffe, et voilà. J'utilise un jargon de jeune, là, pour ceux qui peuvent s'identifier à ça, moi, c'est exactement ça. Je fais ma vie. et je vais suivre mes envies. Et on va pas, tu vas pas, vous allez pas, les chrétiens, me dire ce que je dois croire. Donc si c'est ce que vous vous dites ce matin quand je vous dis que Dieu, il veut votre vie, parce que vous êtes l'argile, il est le potier, vous n'êtes pas les seuls à répondre ça. Regardez, lui, le peuple, ce qu'il va dire au verset 11 et 12. Et je vais peut-être lire à partir du « voici ». Voici que je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos agissements. Et le peuple, qu'est-ce qu'il répond ? Mais ils disent, c'est sans espoir, car nous suivrons nos idées, nous agirons chacun selon l'obstination de notre mauvais cœur, selon, dans une autre version, selon les penchants de notre mauvais cœur. Donc si vous vous dites ça ce matin, vous n'êtes pas seul. C'est exactement ce que le peuple disait, on ne veut pas te suivre Dieu. Et Dieu est juste, et il va juger son peuple. Il est le potier, son peuple est l'argile. Le Nouveau Testament nous explique un peu mieux que, en fait, tous les hommes sont les mêmes. On est tous pareils. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On est exactement comme ce peuple. Je vous apprends peut-être quelque chose. Vous êtes exactement comme ce peuple. Vous ne voulez pas suivre Dieu. Ça, c'est ce que dit la Bible de l'homme. L'homme, naturellement, ne veut pas suivre Dieu. L'homme préfère suivre ses envies, ses délires, ses illusions. Il veut suivre des choses qu'il va perdre de toute façon parce qu'un jour, il va mourir. L'homme, il passe son temps à vouloir suivre d'autres choses que Dieu. Il passe son temps à essayer de gagner des choses qu'il sait pertinemment qu'il va perdre. C'est son envie, c'est son cœur et c'est ce qu'il veut faire. La Bible, elle nous décrit comme des rebelles qui veulent être en fait les dieux de leur vie. On veut être les dieux de nos vies. On ne veut pas reconnaître qu'on est des créatures et qu'il y a un créateur. Non, non. On se dit, bah, c'est arrivé comme ça, big bang, badaboum, sans soin. On ne veut pas reconnaître tout ça. Et donc, on veut prendre la place de Dieu dans nos vies. Hein, on veut siéger, trôner dans nos vies. Il y a un texte qui parle très bien de cela. C'est dans Éphésiens, pareil, c'est dans la Bible, vous pouvez le retrouver. Vous venez me voir à la fin si vous voulez lire ces textes. Je vous donne toutes les références, peut-être comme ça, vous ne savez pas où c'est dans une Bible, mais... je vous l'expliquerai. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. La Bible, elle dit un truc très très simple. Elle dit que, à cause du péché, on mérite de mourir. Et c'est une phrase qui est dans la Bible, un verset, le salaire, hein, le retour, le juste retour hein, de ce qu'on fait, de nos œuvres et tout ça, le salaire du péché, c'est la mort. Et moi, personnellement, je n'avais pas besoin qu'un chrétien ou que la Bible me dise que j'étais pécheur, je le savais. Franchement, enfin, j'étais conscient en fait, de ce que je faisais. Bon, des fois, je me mentais, je me disais que ce n'est pas très, très grave, mais la conscience, elle nous rattrape hein, et elle nous inculpe. Moi, je savais que j'étais pécheur, donc merci. Hein, tous les chrétiens qui me le disaient avant, qui m'en ont parlé, moi, je le savais. Je le savais déjà, je ne sais pas si c'est votre cas. Peut-être vous pouvez être tenté de dire, mais si Dieu est soi-disant amour, mais pourquoi il fait ci ? Pourquoi il ne fait pas cela ? Et s'il est juste, là vous parlez de justice de Dieu, s'il est juste, pourquoi il ne fait pas ça sur terre ? Pourquoi il ne fait pas ceci, cela ? S'il est Dieu, il devrait faire ça, si, ça. On parle souvent hein, des droits de l'homme, et quels sont les droits de Dieu ? Si Dieu est ce créateur et que nous sommes ses créatures, quels sont les droits de Dieu ? Paul, on en a parlé tout à l'heure, qui a écrit des lettres dans la Bible, il répond à des gens qui posent un peu ces questions. Il leur dit, mais Dieu, pourquoi il ne fait pas ci, pourquoi il ne fait pas ça? Lui, il est très pratique, ce personnage, Paul. Voilà ce qu'il répond. Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour contredire Dieu? Le vase d'argile demande-t-il à celui qui l'a façonné? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. À partir de la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux, ou un vase ordinaire, c'est comme si les notes du hang, elles disent « Pourquoi là, il y a un si bémol ? Pourquoi tu m'as fait une gamme mineure ? Pourquoi je suis en majeur ? Pourquoi si, ça ?» Il a le marteau dans les mains, il a un accordeur, et il décide de faire cette note-là. C'est lui. Et c'est pareil avec nous, on veut contredire Dieu, pourquoi si, pourquoi ça ? Et Dieu, il est simplement en train de dire « Je fais ce que je veux, mais je suis juste. » Imaginez un enfant, son père... lui dit, fais pas ci, fais pas ça. Alors une fois, l'enfant désobéit, deuxième fois, troisième fois, au bout de la quatrième fois, le père qui aime son enfant et qui est juste, veut punir son enfant. Il est rentré trop tard, ça fait quatre fois, il lui dit de ne pas rentrer avant 10:30. Le père arrive, il va pour gronder son enfant et son enfant lui dit, stop, papa, tu te souviens quand tu me bordais l'autre jour, tu me disais que tu m'aimais, tu m'avais raconté l'histoire là, tu me disais je t'aime, mais tu peux pas me gronder, tu m'aimes. Il y a peut-être des papas, moi je ne suis pas encore, mais je pense que c'est ça. Vous aimez vos enfants, mais vous êtes juste, quoi. Et l'enfant, non, non, fais pas ça. Tu m'avais dit que tu m'aimais. Et c'est ce qu'on fait avec Dieu. Attends, tu es amour, pardonne tout, on ira tous au paradis, tout ça. C'est un Dieu d'amour. Eh bien non, c'est un Dieu qui est juste. Vous savez, notre conception de la justice, elle est très teintée de nos émotions, d'un certain sentimentalisme. Et on y met vraiment ça. Hein. Mais non, mais Dieu, il ne peut pas faire ça. Mais non, 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 non. On pense que si Dieu est amour, il devrait pardonner et sauver tout le monde. Pourquoi il jugerait ? Il est amour, mais il est juste. Et faites gaffe, faites attention. Que vos émotions ne prennent pas le pas sur votre honnêteté intellectuelle devant ces choses-là. Une autre illustration juste qui me parle, quand il y a un criminel, on a envie qu'il soit condamné. On a tous ça en nous. Hein. Si peut-être ce n'est pas votre cas, imaginez juste que ce criminel tue quelqu'un à côté de vous qui vous est très cher. Vous avez envie que cette personne soit condamnée et soit jugée. On a tous en nous cette soif de justice. Pourquoi ? Il enfreint une loi, il doit payer. On est là devant nos télés. Oh là là, quel sale type, il doit payer. Il enfreint les lois. Attends, c'est la loi. Eh bien Dieu, il a des lois et on les enfreint. On enfreint les lois de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit donc faire, si on veut être honnête, avec notre comportement devant la télé, devant un criminel? On doit donc avouer que Dieu donc aussi doit juger. Si nous ne faisons pas ce que lui, il dit, si nous enfreignons ses lois. La sentence de Dieu dans la Bible est décrite non pas donc comme une prison, hein, si je reprends cette illustration hein, d'un juge qui enverra en prison le coupable. Dieu, lui, il explique un peu son système à lui. Il dit, celui qui enfreint mes lois, il va payer l'éternité privée de ma présence. L'éternité sans moi à se dire, c'était vrai. Il existe. C'était vrai. C'était vrai. C'était vrai. Et c'est un tourment qui dure l'éternité. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Et l'enfer, ce n'est pas cette marmite, je n'ai pas trouvé d'image, mais une marmite avec des petits bonhommes dedans, en tournant, qui font « Ah !» Des petits diablotins et tout ça. Ça, c'est toutes les images qu'on a avec tous les films qu'on regarde, toutes les illustrations. Dieu dit que celui qui enfreint ses lois, il va payer l'éternité en enfer. Et cet enfer, c'est l'éternité privée de lui. Il est le potier, nous sommes l'argile. Si on ne file pas droit, il a tous ses droits pour nous reprendre, nous juger. Regardez quelque chose de magnifique. Versets 7 et 8, qui est au centre. Si vous avez suivi, j'ai pris le verset 6, qui est un peu la thèse, qui est un peu la phrase principale, « Je suis le potier, vous êtes l'argile ». On est allé au verset 9 et 10 pour dire que Dieu avait le droit de juger s'il était souverain et créateur. Mais regardez ce qui est en plein milieu du texte. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. On découvre ici, et c'est la troisième vérité, un Dieu qui fait grâce. Un Dieu qui est juste, qui est juge, et un Dieu qui fait grâce. Dieu annonçait à ce peuple, si vous revenez de vos agissements, moi je vous rétablirai. Et il y a même une promesse plus loin dans le livre qui est magnifique. Regardez le peuple, Dieu est tellement bon, ce que Dieu disait au peuple. Donc Babylone, c'est l'endroit où le peuple allait être déporté. C'était hein, donc le châtiment de Dieu, détruire la ville, déporter le peuple. Quand le royaume de Babylone aura duré donc 70 ans, j'interviendrai pour vous et je réaliserai le bien que je vous ai promis. Je vous ferai revenir ici à Jérusalem, car moi le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Je suis Dieu, vous êtes mes créatures, je fais ce que je veux, vous ne filez pas le droit, vous ne filez pas droit, j'ai le droit de vous juger, voilà ma sentence. Si vous revenez, si vous vous repentez, si vous revenez à moi, j'annule cette sentence. Le peuple, qu'est-ce qu'il dit ? On n'en fera qu'à notre tête. Le peuple va donc être déporté, la ville va être détruite, mais Dieu leur fait une promesse. C'est qu'un jour, il les délivrerait et les ramènerait dans cette terre qu'il a promise. On apprend ici qu'un Dieu qui fait grâce. Et vous savez, je crois que je l'ai écrit. Dieu, il a fait une promesse à l'homme. Il lui a dit, un jour, je vais régler le problème qui est dans ton cœur et je vais venir te laver. Je vais venir te purifier de tout ce que tu as fait de mauvais, mais il faut que tu viennes vers moi. Dieu nous aime tellement qu'il a décidé de nous faire grâce par Jésus-Christ. Et il y a cette préfiguration dans ce texte et qu'un jour, il y aura un libérateur, quelqu'un qui libérerait le peuple, enfin pour cette terre promise. Et bien Dieu a promis qu'il libérerait son peuple, qu'il nous libérerait de notre péché, non pas d'un esclavage en Égypte, mais de notre péché, pour nous donner une terre promise, le paradis. Et le paradis, ce n'est pas jouer pendant l'éternité avec une sorte de truc qui n'a que quatre cordes. Ça doit être embêtant de jouer toute l'éternité avec ça sur un nuage. Ça, ce sont encore les images que nous avons en tête. Dieu a promis de délivrer son peuple pour lui donner le paradis si le peuple se repent, si le peuple réalise qu'il a besoin de Dieu. Il sait ce qui est bon pour nous. Nous, nous voulons être indépendants et suivre nos cœurs, nos envies et nos passions. Dieu, si nous lui demandons pardon, il nous donne la vie éternelle. Vous savez, Jésus est mort à cause de notre péché. On a lu tout à l'heure, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus, qui était Dieu devenu homme, il a pris le péché sur lui. Il en a pris la conséquence, il en a pris la culpabilité. Et à cause du péché, il est mort. Parce qu'à cause du péché, on doit mourir. Il est mort, donc Dieu a été satisfait. Sa justice a été faite, son jugement est tombé, il est tombé sur Jésus-Christ. Il est mort. Mais comme Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est donc plus fort que ce qui cause la mort. On remonte dans l'égalité, il est donc plus fort que le péché. Et donc il offre la possibilité à toute personne qui lui demande pardon, à toute personne qui reconnaît qu'il est de l'argile et qu'il a besoin d'un potier, il délivre, il pardonne et il sauve. Un Dieu créateur qui est juste, mais qui fait grâce. Voilà le Dieu de la Bible. J'aimerais conclure. Que représente une toile, des pinceaux, des pots de peinture, seuls comme ça? Ça ne représente pas grand-chose. Mais entre les mains de Picasso ou de Monet, ces objets, le résultat vaut des millions. L'argile, quelle utilité a de l'argile? Alors oui, peut-être on peut se faire un masque. Comme ça. Après on le jette l'argile, on ne le donne pas à la dame suivante qui vient faire un masque. Quelle utilité a de l'argile dans la boue? Parce que c'est dans la boue que le potier vient chercher l'argile. De l'argile tout seul n'a aucune utilité. Et c'est pareil pour notre vie. Je ne sais pas quel sens vous, elle a votre vie, mais la Bible décrit que votre vie, elle n'a aucun sens sans Dieu. Parce que vous êtes une créature. Et il serait temps de découvrir votre créateur pour savoir ce que lui veut pour vos vies. Et lui, ce qu'il veut, c'est vous sortir de la boue et vous installer sur son tour. Vous savez, le tour, hein, pour faire les vases. Il veut vous installer dessus et vous façonner. Vous façonnez. Des fois, ça fait mal. Vous vous rendez compte le nombre de coups de marteau qu'a reçu cet instrument? Mais Dieu, il fait une promesse dans la Bible. Il dit, il annonce. On n'est pas juste en train, des fois, de recevoir des coups de marteau, parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont très dures, même quand nous sommes chrétiens. Le Seigneur nous reprend si nous filons pas droit. Il nous corrige. Dieu annonce que les coups de marteau ont un but, nous transformer. Il nous a formés. Le péché nous a déformés. Et lui, il veut nous transformer. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu, il veut, écoutez bien, il veut tout simplement de l'argile. Il veut de l'argile qu'il reconnaît qu'il est argile et qu'il ne peut jamais, pourra jamais devenir un vase tout seul. J'ai trois questions pour vous ce matin et je résume juste. Vous êtes des créatures, vous êtes de l'argile. Vous avez été créé, il y a un potier, il vous connaît par cœur, il veut que vous alliez dans son atelier. Il veut vous prendre, vous façonner et que vous deveniez un vase, un beau vase qui lui plaît, qui plaît à son créateur, un vase qui le représente, un vase qu'il peut exposer, qu'il peut utiliser. Pour continuer l'illustration, aller dans l'atelier, c'est se repentir, c'est demander pardon et dire « Seigneur, je viens sur ton tour. En fait, je suis de l'argile, j'ai vu les photos, je le sais de toute façon. » Je ne suis pas honnête quand je dis qu'il n'y a pas de Dieu, il doit y avoir un truc. Mais ce truc-là, moi, j'étais comme derrière la couette, là, bah, ça doit être ci, ça doit être ça. Mais là, je découvre aujourd'hui qui tu es et je veux te donner ma vie. Je viens sur ton tour, je viens dans ton atelier. Charles, tu as dit qu'il était très concret. Donc j'avais envie de poser des questions très concrètes. Trois vérités, trois questions pour vous ce matin. On va peut-être faire un chant. Pendant qu'on se pose ces questions, pour y réfléchir, c'est le chant « Feu du fondeur ». Vous allez voir le texte, ça va vous faire penser un peu au hang, et le côté le feu, le travail, tout ça, mais que ça vous fasse surtout penser à Dieu. Qu'est-ce, et c'est ma question, et c'est surtout la question de Dieu, que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce qui m'empêche concrètement de reconnaître qu'il y a un Dieu créateur ? Deuxième question, qu'est-ce qui m'empêche concrètement de reconnaître que je vis sans lui ? Et troisième question, encore plus concrète, et c'est le but de Dieu, qu'est-ce qui nous empêche concrètement de reconnaître ? Qu'est-ce qui m'empêche concrètement de reconnaître que j'ai besoin de son pardon et de sa grâce ? Voilà le Dieu de la Bible, un Dieu qui veut vous sauver. Moi, j'ai répondu à ces questions il y a 6 ans maintenant. Et je sais que je suis sauvé, ce n'est pas à cause de mes œuvres, c'est grâce à Dieu, le Dieu de la Bible.